pas converti. Hein?
Ceci étant dit, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne commettrez plus de péché. Pourquoi ? Parce que nous sommes toujours sur terre, et la Bible parle même de péchés que nous ignorons. Et souvent, très souvent, nous sommes poussés à venir au Seigneur pour demander pardon à Dieu pour des manquements, pour des failles, des faiblesses, ceci n'étant pas une invitation à se laisser aller. La conversion, eh bien, nous pousse à résister au diable. La Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Donc il ne s'agit pas de pécher puis de dire « Seigneur, je te demande pardon d'avoir un peu trop bu la veille. Seigneur, je te demande pardon d'avoir volé mon patron ». Voilà, ça c'est se moquer de Dieu. Mais la vraie conversion, eh bien, nous allons voir avec l'exemple de l'apôtre Pierre qu'il y a une avancée progressive et par étapes. La première chose que j'aimerais voir avec vous, donc le premier passage, c'est dans Jean chapitre 1. Jean 1, verset 41. Où il est écrit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Une chose très importante, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais la première chose là, la rencontre que Pierre, que Jésus va faire, ou plutôt que Pierre va faire avec Jésus, eh bien, va être particulière, troublante. Nulle part dans les Écritures, nous voyons Jésus faire la même chose, ou plutôt dire la même chose que ce qu'il a pu dire à Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Nulle part ailleurs, nous voyons Jésus dire à un autre apôtre, ou à qui que ce soit en disant, voilà, tu es un tel, tu étais fils de un tel et tu t'appelleras un tel. Non. Et l'apôtre Pierre a vécu une rencontre particulière avec Jésus. Jésus, globalement, il dit comme ça, tu es Simon, c'est-à-dire, tu entends. Simon veut dire, qui entend, ou entend, peu importe. Qui entend. C'est-à-dire, voilà ce que tu es, c'est ton temps présent, tu entends. Mais tu es le fils de Jonas, c'est-à-dire, je connais ton passé, mais je connais aussi ton avenir, tu t'appelleras Céphas, ce qui signifie un Pierre. Et voilà que nous pourrions penser que l'apôtre Pierre était grandement convaincu, grandement gagné dans son cœur après avoir rencontré Jésus. Mais nous allons voir ensemble que Pierre est un exemple pour nous, pour que nous puissions continuer à progresser. Je vous invite à aller maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, verset 1er, où il est écrit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac de barque, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque qu'il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivir. Amen. Vous pensez connaître Dieu, et il y a si longtemps que Dieu vous cherche, que Dieu veut se révéler ce matin dans votre cœur. Ou des histoires sur Dieu, vous en connaissez beaucoup. Et les gens que vous avez croisés vous ont dégoûté. Parce que ces mêmes gens vous ont parlé de Dieu, mais ce qu'ils disaient, ils ne le vivaient pas. Il y avait une apparence à l'église, il y avait une autre apparence à la maison. Vous êtes tombés sur des gens qui vous ont profondément troublés. Des gens qui étaient légalistes ou très laxistes. Des gens qui vous ont bouleversé. Et pourtant, avec Dieu, vous avez fait certaines expériences qui vous ont bousculé, troublé, mais dans le bon sens du terme. Des choses qui vous ont profondément marqué. Et personne ni rien ne pourra vous déboulonner quant à votre relation, pas votre relation, quant à votre connaissance, minime soit-elle, de Dieu. Vous savez que Dieu existe. Mais ce qui vous arrête, ce sont les gens que vous avez côtoyés qui vous ont troublé. Et vous êtes dit, mais alors Dieu, est-ce que c'est vraiment ça Dieu? Alors vous êtes en attente de Dieu, vous êtes à l'écoute de Dieu, et même parfois vous avez peut-être même été dans d'autres religions, sans même le dire à personne, pour essayer de trouver Dieu. Parce qu'en réalité, votre faim, votre soif est en Dieu. Mais comme vous avez eu de mauvaises expériences, alors vous avez cherché ici et là, eh bien, le véritable Dieu. Sauf que, à ce jour, vous n'avez toujours pas trouvé autre chose que ce Dieu dont on vous a parlé. C'est-à-dire à travers l'œuvre de Jésus, Jésus-Christ. Et au fond de vous-même, vous êtes troublé parce que vous dites, mais alors Dieu, il est où ce Dieu d'amour? Puisque les gens que je côtoie, les gens avec qui je parle, les gens qui me parlent de Dieu, n'ont pas, eh bien, c'est pas le même Dieu que je peux lire dans la Bible. Le Dieu de la Bible, j'ai l'impression qu'il est gentil. C'est quelqu'un d'agréable. Quelqu'un qui a pitié, quelqu'un qui a compassion, qui est miséricordieux. Mais moi, je ne vis pas ce Dieu-là. Lorsque vous vous adressez à une personne ou à certaines personnes qui vous ont troublé, alors vous vous repliez sur vous-même, au point que même, peut-être même, votre cœur s'est endurci. Et là, ce matin, vous êtes venu, pas de votre plein gré, mais par contrainte. Parce que vous n'êtes pas en mesure de choisir. Vous avez dit, tu viens, alors vous êtes venu. L'apôtre, celui qui deviendra l'apôtre Pierre, je ne peux pas, ce que je vais dire, ce n'est pas écrit dans la parole. C'est moi qui l'imagine, parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais il y a des choses qui, ça ne nous empêche pas, ça n'enlève rien à la doctrine, bien sûr. Ce n'est pas une faute doctrinale, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir un peu à certains contextes. Et on ne peut pas, me semble-t-il, vous le prenez ou pas, c'est vous qui regardez, qui voyez, qui jugez. Mais je pense qu'on ne peut pas considérer un homme comme Pierre, pardon, comme Simon, Pierre, voilà, puisque Jésus avait dit « tu t'appelleras Cephas », comme Pierre, qui a une culture religieuse, qui a entendu parler de Dieu, du libérateur, eh bien, des Égyptiens, celui qui a entendu parler, parce que vous savez, ces petits gamins juifs connaissent l'histoire de leur nation, ou plutôt connaissent l'histoire de leur peuple, plus précisément. Et ces petits gamins, qui sont devenus grands, qui sont devenus des hommes, comme Pierre, eh bien, ont entendu parler d'Abraham, du père de la foi, ont entendu parler, eh bien, du Moïse, du libérateur, ont entendu parler de Josué, le conquérant, ont entendu parler, eh bien, des juges, pas du juge du tribunal, du juge, eh bien, du livre des juges, ont entendu parler, eh bien, de ceci et de cela, ce Gédéon qui se sentait trop petit, et que Dieu, eh bien, est venu secourir. Il a entendu parler du David, qui, eh bien, avec une pierre, a tué, eh bien, ce Goliath. Et voyez-vous, l'un des métiers les plus dangereux au monde, c'est être pêcheur. Beaucoup, ou plutôt, il n'est pas rare, plutôt, plus précisément, d'avoir des gens qui partent à la pêche, mais qui ne rentrent jamais. Je ne parle pas des pêcheurs à la ligne, bien sûr, vous avez compris. Des pêcheurs en bateau. Parce qu'on ne maîtrise pas les éléments naturels. Et vous avez déjà entendu parler, eh bien, de ces gens, des pêcheurs qui sont partis sur leur bateau, à moteur, et qui ne sont jamais revenus. D'ailleurs, il y avait pour tradition que lorsque les marins pêcheurs partaient, les épouses Regardez, elles avaient un peu, eh bien, avant qu'il y ait les radios, tout ça, regardez sur bien la côte si le mari revenait avec l'équipage. Alors, pourquoi je dis tout ça? Pour revenir à Pierre, pour dire, j'aurais du mal à concevoir que l'apôtre Pierre, connaissant Dieu à sa manière, ne puisse pas prier Dieu en disant, Seigneur, garde-nous. Nous allons travailler toute la nuit à la pêche. On ne sait pas ce que l'on va trouver. Il peut y avoir des dangers potentiels. La nuit, on règle rien. Il n'y a pas les batteries pour l'éclairage. Il y a peut-être des lampes à l'huile, bien sûr, pour y voir un peu. Mais il n'y a pas de frontal. Tout ça, ça n'existait pas, vous le savez. Et Seigneur, on va travailler dans la nuit. C'est dangereux. La tempête peut se lever sur le lac d'un seul coup, comme ça, d'une manière imprévue. Garde-nous. Et donne-nous du succès. Du succès parce que si on n'a pas de poisson, on n'a pas de salaire. S'il n'y a pas de salaire, eh bien, il n'y a pas les ascédiques. Et voilà que toute la nuit, ils vont pêcher. Et la Bible nous enseigne que, eh bien, lui et l'équipage sont là, sur le rivage, en ayant sorti les filets, et les filets n'ont même pas été utiles pour attraper une simple sardine. Pas une sardine, pas un poisson, rien, nada. Imaginez un seul instant ce plan psychologique, émotionnel. Eh bien, comment vivait l'apôtre Pierre en se disant... J'ai prié Dieu. J'ai demandé à Dieu eh bien, de me secourir, d'être avec nous. C'est-à-dire que j'ai eu foi. J'ai mis en action ma foi. J'ai demandé la grâce de Dieu dans ma vie, pour ma vie, et nada, rien. Pire que rien. Pas un poisson. Encore si on avait attrapé 2-3 kilos de poisson, on pourrait dire, bon, ben voilà. Mais même pas un petit poisson. Rien. Imaginez un instant, cet homme ne pensait plus aux finances, mais il a retrouvé son épouse, sa belle-mère, qui avait été guérie par Jésus, vous en souvenez? Et dire, ben voilà, on arrive. Ah là, quelle courge! Rien, tu peux prendre la ceinture et tu serres encore d'un cran. Et comment on va payer la maison? Comment on va payer les nouveaux filets? Comment on va payer l'embarcation et les travaux que tu as fait sur le bateau parce qu'il y avait une voie d'eau, ceci, cela? Comment on va faire? Je ne sais pas, ma chérie. Les économies, il n'y a presque plus rien. Comment on va faire? Et puis, si vraiment la barque était à Pierre, c'est noté. Mais si Pierre, vraiment, avec les associés, ok, mais si lui-même avait des employés, comment payer ses employés? Et puis voilà que pendant qu'il est en train de nettoyer les filets avec les autres, et peut-être en train de réparer parce que le filet était déchiré sur un rocher, voilà Jésus. Mais ce Jésus, lui, il le connaît en partie. Un jour, Jésus lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu t'appelleras Cephas, qui signifie Pierre. Et Pierre, il est là en train de nettoyer. Et voilà que Jésus parle à la foule. On ne connaît pas le nombre de la foule. Mais il y a une chose qui nous est donnée comme information, l'historien Joseph, Flavius Joseph, un historien, disait qu'au 1er siècle, il y avait environ 3 millions environ de Galiléens. Alors, il n'y avait certainement pas 3 millions de gens qui étaient là en train d'écouter Jésus, mais un certain nombre qui étaient là en train d'écouter. Et vous pensez bien que Jésus n'était pas en train de parler de la pluie du beau temps, quoique il pouvait en parler pour s'en servir comme parabole, mais avec un but précis, parler du ciel. Et parmi tous ces gens qui étaient là, comme vous ce matin, on a tous nos besoins qui nous sont propres. Il y a des besoins qui sont, on dirait, il n'y a pas besoin de révélation particulière. Quand on est sur une chaise roulante, quand on a besoin d'un appareillage pour marcher, il n'y a pas besoin de dire, je crois, oui, voilà une parole de Dieu. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Puis ce serait tellement hypocrite. Mais nous avons des besoins qui sont spécifiques. Là, parmi cette foule, il y avait certainement des gens qui avaient besoin de voir une action de Dieu. Et lorsque Jésus parlait, il ne parlait pas comme un simple rabbin, quand bien même ils étaient cultivés, quand bien même c'était des gens qui avaient une connaissance de la parole. Mais lorsque Jésus parlait, il nous a dit dans Marc, chapitre 1, verset 27, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité, même aux esprits impurs. Ils lui obéissent, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Lorsque les gens entendaient Jésus parler, ils entendaient autre chose qu'un homme rempli de connaissances et de doctrines. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. C'était des paroles comme un baume sur le cœur. Une parole bienveillante. Une parole qui n'allait pas dans notre sens en disant « Oh, t'as péché, bon, c'est pas grave. C'est un petit péché mignon. T'as trompé ta femme ? Oh, lui dis pas, c'est pas grave. Oh, elle s'en doutera pas, elle ne saura pas. » Non, non. La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et Jésus n'allez pas dans le sens des gens pour les caresser dans le sens du poil en disant « Oh, c'est pas grave, t'es mignon, t'es gentil, peu cher. » Non. Mais Jésus, lorsqu'il parlait, il disait la vérité. Et vous savez qu'on peut dire la vérité avec amour et on peut dire la vérité avec dureté. On peut dire la vérité avec empathie, compassion, miséricorde. Et c'est comme ça que Jésus parlait. Et on peut dire la vérité avec « Père, comment va votre âme ?» Un inquisiteur de la grâce. Frère, vous avez péché. Dieu vous voit. Oui. Mais on peut le dire aussi autrement. On regarde à Christ, on regarde à la croix. Et voyez-vous, il y avait des estropiés de la vie, des estropiés spirituels, des gens qui avaient fait des faux pas, qui étaient boiteux, qui avaient besoin d'entendre un message d'espérance. Il y avait des aveugles qui avaient besoin de voir la grâce de Dieu agir dans leur vie. Il y avait des malentendants qui avaient besoin d'entendre Dieu les encourager, leur parler. Et Jésus était là, le Verbe incarné, Dieu lui-même, parlait à cette population. Et les gens, c'était comme ça. Mais là, sur le rivage, il y avait toujours notre apôtre Pierre, qui n'était pas encore apôtre, mais qui était là écouter. Et peut-être l'air de rien en train de nettoyer, de rafistoler. Il écoutait. Rappelez-vous, Simon, qui entend. Et à un moment donné, Jésus va monter sur la barque. Il s'installe, il s'assoit. Et il part. Il demande à Pierre de s'éloigner un petit peu. Et puis ça fait caisse de résonance. Ça fait plutôt l'acoustique est idéale. Si l'eau est plate, pas de vagues, ça, la voix porte et ça fait boum, ça rebondit et les gens entendent. Et puis Jésus n'est pas pressé par la population. Les gens sont là, vous savez comment ça se passe. Hein? Donc Jésus est à distance. Oh, il y avait bien deux, trois gamins qui étaient en train de jouer dans l'eau. Et le petit tombe. Ah, laisse mon frère, écoute. Chut. Comme dans toutes les familles. Et puis, une fois que Jésus a parlé du ciel, il va s'adresser maintenant à celui à qui appartient la barque. Il lui dit, avance en pleine eau. Va un peu plus loin. Et là, avant que Jésus n'aille plus loin, il dit, avance en pleine eau. C'était une expérience que Pierre allait vivre. Et Pierre avait besoin de vivre cette expérience. Et Jésus dit, jetez vos filets pour pêcher. Jésus parle au pluriel. Il s'adresse non seulement à Pierre, mais il s'adresse aussi aux autres qui sont là. Jetez vos filets. Et il précise, pour pêcher. Et Simon dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. comme si tu ne le sais pas, eh bien, puisque tu ne dois pas le savoir, je te le dis. Et parfois, nous parlons à Dieu comme si Dieu n'était pas au courant des choses. Sauf que Dieu sait toutes choses. Il connaît ta colère. Il sait pourquoi tu raisonnes ainsi. Même derrière, eh bien, ton masque te donne une apparence, mais qui, au fond de toi-même, tu ronges ton frein. Pourquoi ? Et si ce matin, vous acceptiez de ne plus vous poser la question « Pourquoi ?» mais de faire comme Pierre. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Et quand Pierre parle de maître, il n'est pas question du maître, semble-t-il, là, du maître divin, mais maître, c'est plutôt le respect, comme le rabbin, quand vous allez voir le docteur, « Bonjour, monsieur le docteur », vous n'allez pas dire « Ah, dis donc, paf, ça va ? Alors, qu'est-ce que tu me donnes comme cachet aujourd'hui ?» Non, bonjour monsieur, vous allez vous adresser aux policiers, vous allez pas dire « Ah, ça va les bleus ?» C'est irrespectueux. On dit « Monsieur l'agent, c'est mon seigneur, maître là plutôt, maître. » Alors dites pas aux policiers « Mon seigneur », il veut dire « Alors vous, vous moquez de moi là. Soufflez dans le ballon parce que là, à mon avis, vous êtes un moqueur. » « Mais non, je sors du cul, je ne le passe pas. » Non. Mais je reviens à mon texte. L'apôtre Pierre va dire, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et c'est là la clé du passage, mais sur ta parole. En réalité, Pierre dit, mais je ne veux plus compter sur moi, mais sur ta parole. Parce que toi, tu me l'as dit. Et parfois, nous avons besoin, malgré notre professionnalisme, malgré nos compétences dans certains domaines, à un moment donné, Dieu aussi peut nous faire, comme il a vécu avec Pierre, et bien nous arrêter à un moment donné pour dire, mais je suis compétent dans telle chose. Je suis un professionnel dans tel domaine. J'ai mon caractère, j'ai ceci, j'ai cela. Enfin, je suis cadré. Et là, j'y arrive plus. Je ne sais plus. Je perds mes moyens. Je perds tous mes moyens. L'autre jour, nous étions au bord de la mer, sur un rocher qui fait peut-être 5 mètres de haut à peu près, et les gamins se jetaient du haut du rocher. Il y avait un grand gaillard qui était là. Pendant moins une demi-heure, il était comme ça. Il avait envie, il n'y rêvait pas. Compétent, connaissance, costaud. Bon, à un moment donné, il a sauté, mais il n'a pas sauté deux fois. Ça faisait quand même vraiment trop haut. Et parfois, nous sommes limités. Et si ce matin, ce qui vous a arrêté, ce qui vous a empêché d'aller plus loin, c'est tout simplement parce que vous dites, mais je ne comprends pas où j'en suis, je ne sais plus où j'en suis. Comment se fait-il que je me sois arrêté alors que je suis compétent ? Et si c'était voulu de Dieu ? Pour que vous puissiez dire à Dieu, écoute Seigneur, moi je suis arrêté, je suis limité dans mes capacités, mais sur ta parole, alors je ferai. C'est particulier ce texte parce que le singulier et le pluriel se mélangent, Dieu s'adresse eh bien, à Pierre et en même temps il s'adresse à ceux qui sont avec lui. Et ce matin, la question que j'aimerais nous poser, si Dieu nous choisissait, ou si Dieu plutôt se servait de nous pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pourtant, Jésus avait dit, en amont, jetez vos filets. Mais c'est Pierre qui dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Ils sont où les autres ? On ne peut pas répondre pour les autres. Le salut est quelque chose de personnel. L'engagement avec Dieu est quelque chose de personnel. On peut être fils de pasteur, on peut être fils de qui vous voulez. On peut avoir une grande connaissance, avoir eu une éducation spirituelle ou tout ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, eh bien, ça restera toujours quelque chose de personnel. Mon engagement est un engagement personnel. Vous savez, le baptême, par exemple, les gens, quand ils veulent s'engager dans les eaux du baptême, c'est quelque chose de personnel. Il ne faut jamais se faire baptiser parce que les copains vont se faire baptiser en disant oh, quand même, la honte, je suis le seul. Sur l'équipe de 10, je suis le seul à ne pas me faire baptiser. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. Il faut se faire s'engager dans les eaux du baptême parce que je veux le faire pour Dieu. Je ne me marie pas pour les autres. Je m'engage avec celle qui va devenir ma femme. C'est moi avec elle. Ce n'est pas pour les autres. C'est personnel. Et l'apôtre Pierre va donc jeter le filet. Il est écrit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité. Et c'est encore particulier parce que, vous voyez, c'est lui qui s'engage à jeter le filet, ils prirent. C'est à nouveau le pluriel. Parce qu'en réalité, Pierre a été un exemple pour les autres. Ben, les autres ont été au bénéfice de la grâce, de l'obéissance de Pierre. Même s'ils ne comprenaient pas, en disant, mais je ne sais pas, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole, je fais quand même. Parce qu'en réalité, rien n'avait changé entre-temps. Entre la nuit et la venue de Jésus dans la barque, et parfois nous pouvons avoir l'impression que Jésus dans notre barque, pas parce que c'est une impression, pardon, je reviens sur ce que je viens de dire, mais parce que nous l'avons invité dans notre barque. La barque, c'est notre vie. Et pourtant, rien ne bouge. Le poisson n'était pas en train de frétiller au-dessus de l'eau, voyant un banc de poissons. Non, rien n'avait changé. Entre la nuit et l'instant où Jésus dit « Jetez vos filets », rien. Mais sur ta parole, c'est-à-dire une parole de foi, je m'engage, même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas. Et c'est là aussi intervient la foi. C'est que Dieu ne nous fera pas forcément tout comprendre. Mais en même temps, ce que Dieu nous demande, c'est un acte de foi. Et voyez-vous, l'apôtre Pierre, lorsqu'il va voir eh bien, que les filets sont pleins, alors qu'au début il n'y avait rien, il va faire venir l'autre barque, et les barques, il y avait tellement de poissons que les deux barques s'enfonçaient, nous dit la parole. Et Pierre avait besoin de faire cette expérience. Et parfois, Dieu ne répond pas à notre prière parce que Dieu veut nous donner plus que notre prière. Parfois, dans notre tête, nous sommes tellement limités, pas parce que nous sommes... de pauvres esprits, mais parce qu'on a vite fait des calculs. Et on s'imagine ceci, on s'imagine cela. Et Dieu ne répond pas forcément à notre prière. Parce que Dieu a encore quelque chose de mieux à nous donner. Et parfois même, Dieu nous fait passer par des travers. On dit, mais c'est pas possible. Regardez les Hébreux lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. La logique, c'était, je quitte l'Égypte. Je trace tout droit. Le GPS, on l'aurait branché, allez tout droit. Mais Dieu a fait faire les choses autrement. Ils ont passé par des contours. Et le GPS aurait dit, dès que possible, faites demi-tour. Tu m'énerves, le GPS. Et parfois, Dieu nous fait faire des demi-tours. Des contours, plutôt. Mais pourquoi, Seigneur, tu fais passer par là, alors que ce serait tellement plus simple? Parce qu'il y a des choses que moi, je connais, que toi, tu ne connais pas. Et voyez-vous, si par exemple, Pierre avait prié au Seigneur la veille en disant « Seigneur, donne-nous d'être prospère, d'avoir du poisson à gogo !» Il serait arrivé sur le rivage, il aurait dit « Merci Seigneur d'avoir béni !» Allez, hop, puis c'est tout. Mais là, l'expérience qu'ils vont faire va bousculer Pierre et les autres aussi. Mais les projecteurs de l'évangile sont fixés sur Pierre, plus précisément. Et lorsque Pierre va voir que ces poissons sont là, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de poissons qui ont interpellé Pierre. C'est le fait que Dieu réponde, alors qu'il ne méritait rien, et dit « Retire-toi de moi. Je ne suis pas digne. Retire-toi. » Et voyez-vous, tout à l'heure, je disais que Pierre a commencé en rencontrant Jésus, « Eh bien, tu es Simon, fils de Jonas, tu t'appelleras Céphas, qui signifie Pierre. » C'était une première rencontre. Mais la réalité de tout ça, c'est que Dieu veut nous faire progresser dans notre marche, dans notre connaissance avec Dieu. Une autre étape que vous connaissez aussi. Lorsque Pierre va dire, « Oh Seigneur, j'irai avec toi en prison, même jusqu'à la mort s'il le faut !» Et Jésus a dit, « Pierre, Tu me renieras avant que le coq ne chante. Quand même, je sais ce que j'ai dans mon cœur pour Dieu. La Bible dit, comment des héros sont-ils tombés? Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Un jour, j'ai dit, lorsque j'étais dans une certaine église, je dis en quelques mots, j'ai dit, je me méfie de quelqu'un dans l'église. Alors vous pensez bien que là, ça surprend. Et je le redis ce matin, je me méfie de quelqu'un ce matin. Il y a une personne, j'ai pas confiance en cette personne. T'as vu, je te l'avais dit, il y a quelque chose contre toi, le pasteur. Eh bien, je me méfie de ma petite personne à moi. Trop connu de gens qui, alléluia, gloire à Dieu, et qui étaient sincères et vrais. Et qui un jour, il est où? L'adversaire de notre âme, j'ai dit, je crois que c'est jeudi, n'aura de cesse, eh bien, de vous mettre des pots de banane sur votre route. Si le diable a tenté Jésus à la sortie du baptême, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert, le diable a tenté Jésus à plusieurs reprises. Et comme Jésus disait, il est écrit. Il ne s'est pas appuyé en disant, alors qu'il aurait pu, hein, lui, le Verbe incarné, il aurait pu dire, écoute, moi je dis, moi ceci, moi cela. Non, il était incarné, il était dans le corps d'un homme, pleinement homme. Alors il a pris la parole, il a écrit, il est écrit. C'est l'autorité de la parole qui fait foi. Il est dit en quelques mots que le diable est parti, il le laissa jusqu'à un moment favorable. Et des moments favorables, le diable il en a eu. Descends de la croix et on croira en toi. Ah, il ne descend pas. C'était une réelle tentation de descendre de la croix. Et ce n'est qu'un exemple. Alors vous pensez bien que si le diable s'est attaqué à Jésus de cette manière, il n'aura de cesse et bien de le faire pour nous aussi. Une autre étape, l'apôtre Pierre, et je termine bientôt, pour montrer ici que l'apôtre Pierre eh bien, est un homme qui a accepté, parce que le point fort dans tout ça, c'est le fait d'accepter de grandir avec Dieu. De ne pas penser qu'on est arrivé au summum en disant « bon, ça y est, je sais tout, je connais tout ». C'était Jean Gabin qui disait « je sais, je sais, je sais, je sais, je sais et je sais encore ». Et à la fin de cette chanson, il dira « je sais une chose, c'est que je ne sais pas » ou « je ne sais rien ». Et l'apôtre Pierre a accepté d'apprendre, de se remettre en question et de sans cesse apprendre et apprendre. Et Dieu veut que nous puissions apprendre et apprendre. Un petit gamin, lorsqu'il rentre en maternelle première section, il découvre un autre univers. Ah, il y a des petites filles, il y a des petits gars, comme moi, je pensais que j'étais le seul à la maison, mais là, je suis dans un autre univers. Et puis, petit à petit, à force de grandir et de rentrer dans les classes, il arrive en CP, les petits maternels, et les petits gamins. Hein. Moi, je suis un CP. Et les petits CM2 disent, tiens, là, les minous, là, les mioches, les petits. Et puis quand on arrive au collège, en sixième, oh, moi je suis un grand, hein, CM2, ouais, les primaires. Ouais, mais t'es un petit, sixième. Et quand on arrive en troisième, tiens, là, les sixièmes. Ah, les gars, nous, on est les troisièmes. Et quand on arrive en seconde, et les jeunes qui ont de la barbe, des moustaches, et puis nous, on est là, hein. Je prends cet exemple pour dire que avec Dieu c'est pareil. On pense arriver à un moment donné, mais Dieu nous dit tac. Et ça passe parfois par des épreuves. L'apôtre Pierre dira dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 1er, il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et c'est vrai. Il n'est pas en train de se mettre en avant. Pierre a compris que, eh bien, Jésus était celui qui avait changé sa vie. Il n'était pas question de bomber le torse parce qu'il savait ce que ça coûtait, ce que cela lui a coûté, eh bien de penser qu'il pouvait s'appuyer sur lui-même. Après avoir renié Jésus, il a compris que. Il a dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Et regardez dans sa deuxième épître. C'est toujours le même homme. Simon, Pierre, serviteur et apôtre. Simon, ça nous parle du passé, de nos failles, de nos faiblesses. C'est Jésus qui a changé son nom.
Tu s'efface, tu t'appelleras Pierre. Simon, souvent mon passé me rattrape. Le vieil homme n'est pas encore mort. Pierre, je compte sur ta grâce. Je vais être ton serviteur avant d'être quoi que ce soit d'autre. Parce qu'un serviteur est à l'écoute du maître. Quand on est apôtre, on sert, on a un titre, on sert, je sais où je vais. Et quand on est serviteur, on attend la feuille de route. Seigneur, que veux-tu dire à ton serviteur ce matin? Un serviteur écoute humblement. Il ne verra pas un serviteur en disant, bon patron, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon attends, je vais te dire ce qu'il faut faire. Vous ne verrez jamais un serviteur comme ça. Un serviteur, le doulos, l'esclave de Christ. Sommes-nous esclaves de Christ? Je veux que tu ailles là. Seigneur, et puis je termine. L'apôtre Pierre, c'est lui-même qui dira, vous qui l'avez crucifié. Il s'adresse à cet homme poltron qui avait peur. Une femme lui a dit, mais toi aussi tu en es de ces gens-là, de ce Jésus-là. Non, non, je ne connais pas. Mais le jour où il pourra dire, vous qui l'avez crucifié, ce n'est plus le même homme. Et la conclusion de tout ça, c'est que l'apôtre Pierre n'a fait que évoluer, grandir, tout en comprenant qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Rappelez-vous du passage où Paul a été obligé de reprendre Pierre. Parce qu'il y avait les judaïsans qui étaient arrivés, et Pierre, quand il a vu les judaïsans arriver, il a dit, oula, vite. Il y avait toujours des failles. Nous avons toujours des failles. Méfions-nous de nous-mêmes plutôt que de nous méfier des autres. Lorsque j'apprendrai à me méfier de moi en disant, oh, attention, fais attention. Alors on découvrira peut-être un autre individu chez nous en disant, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce, parce que souvent le Simon revient en moi, là que tu m'as appelé le Pierre. Et la conclusion de tout ça, l'apôtre Pierre avait tellement compris qu'il avait besoin de la grâce de son Seigneur, que lorsqu'il mourra, et en réalité il mourra quand même pour son Seigneur, il mourra crucifié, mais il ne voulait pas se mettre à l'égal de son Seigneur. Il a été crucifié, mais la tête en bas. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de cette grâce. Il ne voulait pas qu'on fasse de lui, eh bien, l'apôtre Pierre, presque un dieu, comme dans certaines religions, Pierre ceci, Pierre cela, celui qui a succédé à Jésus, mon œil. Personne n'est à l'égal de Christ. Pierre, s'il était encore en vie, dirait, arrêtez vos simagrées, arrêtez votre idolâtrie. Moi, j'ai eu besoin de la grâce jusqu'à la fin de ma vie. Alors que Dieu vous bénisse richement. Et que, vraiment ce matin, vous puissiez comprendre que Dieu vous cherche. Que même si vous avez été déçu par certaines personnes qui vous ont parlé de Dieu à leur manière, parce qu'elles-mêmes n'ont pas compris la grâce de Dieu, et sont devenus des légalistes. Fais pas ça! La Bible dit qu'il ne faut pas faire ça! Et encore si! Oh, tu as menti! Le péché, la faute va te tomber dessus! Mais on n'attire pas les gens à la grâce. Mais à côté de ça, le laxiste aussi. Oh, c'est pas grave, t'as volé chez le boulanger. Oh, tu sais, le boulanger, il en a plein les poches! Pas la grâce, c'est pas bien grave! Mais de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Faites votre expérience avec Dieu. Dites à Jésus, Jésus, je ne m'appelle pas Pierre, mais désormais je veux être à ton écoute. Parle-moi. Regardez avec quelle bienveillance Jésus a parlé à Pierre. Jette ton filet. Jetez vos filets sur ta parole. Alors lorsque vous lirez maintenant la Bible, dites, sur ta parole Jésus, j'ai lu ça. Eh bien je veux m'appuyer sur ce que tu as dit dans ta parole. Et ce qui importe, ce n'est pas ce que moi je pense ou ce que les autres vont penser, mais que me dit ta parole? Et c'est ça qui doit faire, eh bien, référence à ma vie. Quel que soit notre âge, qu'on soit un petit enfant ou qu'on soit une personne âgée, c'est dire, ta parole, je sers ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher.
Quelqu'un peut terminer par la prière ?